Vous êtes bien sur Radio La. Pedro, bonjour.
Bonjour Lionel.
Alors aujourd'hui, nous allons parler du prix Goncourt 1917,
Oui.
La flamme au poing de Henri Malherbe. Alors Henri Malherbe, il est né en 1886 à Bucarest et il est décédé en 1958 à Paris. Alors c'était un journaliste, un écrivain et un essayiste. Il a été gazé lors de la Seconde Guerre
La
mondiale, et,
première.
pardon, excuse-moi, lors de la Grande Guerre, oui,
Oui.
et hospitalisé jusqu'à la fin de la guerre. Et il demeura handicapé jusqu'à la fin de sa vie. Alors, La Flamme au poing, c'est son second roman sur la dizaine qu'il a publié. Donc, il s'agit là d'un récit moins critique que certains qui paraîtront durant la guerre. Notamment comparé au Feu de Barbus, et son roman est empreint d'un patriotisme ardent. Donc en 1917, il fallait remobiliser les forces de la nation.
Voilà. Barbus ayant fait une critique très poussée de la guerre 14-18, les gens du prix Goncourt ont estimé qu'il fallait donner le prix à un roman qui exaltait les forces de la nation et le courage des combattants des tranchées. C'est un peu le contre-pied du Feu de Barbus.
Alors, ce roman, c'est une description de la vie des soldats sur le front, au quotidien, en une ode à la guerre, pleine de beaux sentiments, n'est-ce pas? Du sens du sacrifice, dédié à la grandeur du combat mené contre les barbares.
Les barbares, oui,
Ouais.
parce que c'était des barbares, les Allemands.
Donc,
Donc,
tu nous as sélectionné quelques extraits.
quelques petits extraits, voilà. Donc, je vais te lire le début du roman. Voici 55 jours que nous avons pris position dans ce bois déchiqueté, pelé par le fer et la flamme. La violence de la bataille ne s'épuise pas, mais se prolonge plus rapide et désespérée. Nos sensibilités, harcelées par l'horreur et la détresse, mordues par l'enthousiasme et la haine, s'affolent, captives, pantelantes ou rebelles. On a souvent parlé de nous relever. Le colonel D nous retient. Il sait notre rage de détruire, notre impétuosité à nous défendre et nous venger. Et notre chef d'escadron H ne se lasse pas de distribuer de l'espoir, ni de chasser l'amertume envahissante. Mais ceux qui restent ont des visages hagards, brûlés et poignants. La fatigue les enfiévre et les sèche, esclaves irréductibles d'une cause tragique et dont ils sentent obscurément l'urgence et la grandeur. Vive la guerre!
Oui, c'est ça, oui. Ils sont tous beaux dans leur.
Voilà, ils sont dans leur sens du sacrifice pour la patrie et pour la civilisation. Encore une histoire de civilisation, tu vois. Alors, un autre petit extrait. Tous les soirs, au moment des attaques, on entend les cris angoissés, les hurlements délirants de blessés qu'on ne peut aller relever, tant la fusillade et le marmitage sont grands. Et quelques-uns, hier, voyant qu'ils mouraient, là, sans secours, affreusement placés entre ces deux rives de flammes, ont été pris d'une colère violente et mortelle. On entendait le cœur serré, trop lourd, les cris d'angoisse, les récriminations de ceux qui s'étaient tout entiers donnés, et là, et à qui on ne pouvait prêter aucune aide. Barbares, misérables, nous laisser crever ainsi, barbares, sauvages, toujours ces mots reviennent. Chaque fois, il y a un homme honteux qui se rend à ces appels funèbres, un crépitement de mitrailleuse, on ne le revoit plus.
Il n'y a pas de barbares chez les Français.
Non, ils
Non.
sont tous des hérons.
La guerre, c'est la guerre, quoi, non?
Ouais, ils font pas la guerre, ils défendent la civilisation.
Ah oui, pardon. Une petite question de vocabulaire au début du texte, le marmitage, j'ai
Le
pas.
marmitage, ce sont les obus qui arrivent comme ça,
Qui
comme
pleuvent.
des marmites, quoi,
Ouais,
et qui
d'accord.
pleuvent, quoi. C'est ce qu'ils appelaient le marmitage.
Ok.
Alors,
Merci. Ça recommence.
bon, oui. Et nous évoquons ces heures victorieuses comme si, par suggestion, leur souvenir pouvait susciter un nouveau triomphe. Nous avons pris position sous des pommiers rabougris, tordus, et dont les branches qui traînaient, lacées jusqu'à terre, nous masquaient à merveille. Le combat avait été d'une violence farouche, mais la journée était si belle que les cadavres mêmes qu'on avait pu encore ramasser semblaient garder une félicité étrange. Les cadavres qui gardaient une félicité étrange. Petit texte. Tu vois, c'est pas long ce que j'aime.
Tu nous choisis. Il est bien sûr.
Ouais. C'est beau, là. C'est beau, là. Car être soldat, c'est être le glaive nu. C'est se dépouiller d'illusions, étouffer ses souvenirs. C'est se garder pur, fort, pour un devoir saint, pour un sacrifice âprement consenti. C'est se faire aride, puissant et juste, âme farouche et désertique, d'où se retirent les prestiges et les jeux, les arts et toutes les grâces brillantes et paisibles des sociétés humaines. Ah oui, c'est...
Ce patriotisme-là...
Ah, c'est poussé à l'extrême, hein. C'est poussé à l'extrême.
Ça pourrait être pas très très bien vu quand même, ce genre de
mais à l'époque, c'était très bien vu, quoi. On exaltait la grandeur de la France et la grandeur de ses combattants, quoi. Et puis, les Allemands, toujours, c'était des barbares. On défendait la civilisation.
Alors, pour finir,
oui.
Ce bouquin que tu as entre les mains, il a vécu.
Ah, il a vécu puisqu'il date de 1917. Le bouquin que j'ai dans les mains a été tiré en 1917. Il a 100 ans, le bouquin que j'ai dans les mains. Là.
Que tu as chiné
À Saint-Mich aussi, oui. Des romans de 100 ans, je ne crois pas qu'ils en aient beaucoup chez Moula ou à la machine à lire. Tu vois, il s'en bat encore en pièce. Là, tiens, et je vais te lire la conclusion.
Bon, bah écoute.
C'est la conclusion. Bah, de toute façon, ce sont des petites histoires, donc il n'y a pas de début.
Il n'y a pas de conclusion.
Si, il y a une conclusion.
Ah, d'accord.
À son bouquin.
Bon, j'espère que les auditeurs ont apprécié, parce qu'on a dit qu'on dirait, on ne lirait jamais.
Ouais, mais il n'y a pas une histoire qui se suit. Hein.
Non, mais.
Ce sont des témoignages, en gros, si tu veux.
Tu assumes.
J'assume complètement. Dans le tumulte des élans qui nous agitent, j'ai pris les émois et les songes au hasard quand ils me tentaient. Je me suis efforcé à retenir et à emprisonner. Dans les lignes d'un dessin appuyé, notre vie actuelle, captive, chargée d'oripeaux bizarres et cruels, pleurante, hallucinée, que je voudrais traîner jusqu'aux monotonies futures. Mais ici, l'action simple, brutale, domine et méprise la méditation.
Oripeaux, tu peux me rafraîchir la mémoire?
Les oripeaux.
Les oripeaux. Pff,
en bordelais, on dirait les gueilles.
Les gueilles.
Les vieilles frusques, toutes pourries, quoi. Les oripeaux.
J'ai déjà entendu ce mot-là, mais il y a longtemps.
Pas dans le vestibule.
Non, pas dans le vestibule. Un petit mot de la fin ?
Un petit mot de la fin ?
Ouais, qu'est-ce qui... Enfin, remarque, les gens ont pu avoir un bon aperçu de...
Ah, mais ça, je te dis, c'est la... Il y a eu certains témoignages de la guerre, parce que en 15, en 16, en 17 et en 18, tous les prix Goncourt ont été attribués à des romans qui parlaient de la guerre 14-18.
Ah, pas mal.
Ouais.
Merci de le préciser.
Et donc, il y en a certains, il y en a un ou deux qui critiquaient la guerre, et puis il y en a trois ou quatre qui la défendaient, quoi. D'accord. Qui exaltaient les valeurs de liberté, de civilisation, que défendait la France.
Mais Henri.
Oui.
Henri Malherbe, c'était un patriotiste, nationaliste,
exacerbé ou... Comme je disais, des renseignements sur lui, j'en ai pas eu beaucoup. Je sais pas quelles étaient ses idées politiques. Mais tu sais que la plupart des gens qui sont partis faire la guerre en 14-18, au départ, c'était des va-t'en-guerre, quoi. Tous. Les
la pays, fleur.
Les,
avec la fleur au fusil.
Ouais. Ils allaient défendre la civilisation, quoi, contre les barbares allemands. Et il y en a beaucoup qui en sont revenus. Qui en sont revenus intellectuellement, pas physiquement, parce que Peggy et Perrault, ils n'en sont pas revenus. Hein.
Alors moi, je pensais pas qu'ils allaient défendre la civilisation, je pensais qu'ils y allaient, comme on disait, la fleur au fusil, qu'ils ne savaient même pas où ils allaient mettre les pieds. Ils y allaient avec des habits,
ils y allaient habillés en
bleu.
Ouais, on est à Berlin dans 15 jours et tout. Ouais, ils y allaient la fleur au fusil, mais ils y allaient comme font les Américains maintenant, quand ils vont quelque part, ils vont défendre la civilisation. Et les combattants français, on leur a mis dans la tronche, ils allaient défendre la civilisation contre les barbares allemands, quoi.
Ouais, limite sans se battre quoi, juste intellectuellement, on y va.
Ouais, ils n'ont même pas réfléchi à ça. Ils n'ont même pas réfléchi à ça. Et bon, ils ont commencé à réfléchir quand ils ont rencontré les adversaires d'en face, qu'ils ont pu échanger, parce qu'il y a eu des trêves pendant la guerre. Ils se sont aperçus que c'était des gens comme eux qui ne voulaient pas la guerre, qui se battaient parce qu'on les forçait un peu à se battre. Ils se sont aperçus qu'ils étaient comme eux, que c'était les mêmes, quoi.
Pedro,
Oui.
merci.
C'est avec plaisir.